Bonjour, je suis Daniel Duchesne et je souhaite la bienvenue sur le rendez-vous marketing, le podcast 100% dédié à l'acquisition en ligne. Qu'elle se fasse via les médias sociaux, la publicité en ligne ou le contenu, vous trouverez sur ce podcast des astuces, des bonnes pratiques et des stratégies déjà appliquées par des consultants spécialisés, agences et marques à succès pour booster votre acquisition. Et quant à moi, je me charge de tout dégrossir avec mes invités ou en solo, afin que vous puissiez mettre en pratique ces conseils et ces stratégies dans votre business. Mais attention, dans le digital, ce qui était vrai aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain, alors abonnez-vous à ce podcast pour rester constamment à jour. Ce podcast est rendu possible par DHS Digital, l'agence Social Ads experte en publicité Facebook que j'ai lancée pour accompagner les marques, jeunes ou établies, à accélérer leur croissance. Pour y arriver, on a développé une approche de la publicité qui combine expertise des leviers Social Ads, expertise créa et conseils stratégiques pour l'e-commerce. Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode de podcast avec Thibaut Sagnier, qui est le fondateur de l'agence Emailio, une agence d'email marketing pour les e-commerçants. Au moment où il a lancé son agence en 2020, Thibaut a vu ce que beaucoup de marketeurs français n'ont pas vu avant lui, c'est que l'email marketing est sous-estimé en France par les e-commerçants. Et pourtant, il est un levier indispensable à la rétention, mais aussi à l'acquisition de nouveaux clients. Et certaines marques que j'ai reçues sur le podcast m'ont d'ailleurs avoué que 30% de leurs revenus proviennent directement de l'email marketing. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que l'email marketing, c'est gratuit et ça le restera, contrairement à Facebook. Je vous l'avoue, l'email marketing, c'est un sujet que je ne maîtrise pas autant que la publicité en ligne comme les Facebook Ads ou les Google Ads. Et pourtant, je reçois beaucoup de mails de la part de mes clients e-commerçants. Certains sont automatisés, d'autres non. Et je voulais faire le point avec Thibaut sur les meilleures stratégies et pratiques d'email marketing pour les e-commerçants. Comme d'habitude, je lui ai posé plein de questions, tellement que j'ai dû séparer l'épisode en deux parties, étant donné que la conversation a été dense en contenu. On commence par la première partie où j'ai demandé à Thibaut de me donner concrètement les essentiels de l'email marketing selon lui pour les marques qui font entre 0 et 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc concrètement, j'ai voulu savoir quels sont les types d'emails qu'il faut envoyer quand on est une marque e-commerce de ce type et concrètement, quels sont les types de flow, donc c'est-à-dire les séquences automatisées d'emails à envoyer, que ce soit pour le tofu, donc le top of the funnel, le mofu ou le bofu, donc le bottom of the funnel. Je vais également demander comment optimiser son flow de relance d'abandon de panier et quels sont les exemples de flow standard qu'il peut me donner pour faire de l'upselling et du cross-selling. Ensuite, je posais la même question, mais pour les marques qui génèrent plus de 100 000 euros de revenus mensuels. Je vais également demander quels sont les enjeux pour une marque de cette taille sur l'email marketing. Et j'ai posé les mêmes questions à Thibaut pour les marques qui génèrent plus de 100 000 euros de revenus mensuels. J'ai également voulu savoir quels sont les enjeux de ces marques sur l'email marketing quand elles génèrent autant de revenus et qu'elles ont des listes email qui sont bien plus grandes. Et est-ce que les flows automatisés, dont on m'a parlé pour les marques qui font moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires, est-ce qu'ils sont différents et plus complexes? Ça, c'est pour la première partie. Et dans la seconde partie de l'épisode qui sortira la semaine prochaine, on passe à des réflexions plus avancées sur notamment la personnalisation des emails, leur conception et le copywriting spécifique à l'e-commerce. On a également vu ensemble les KPI que Thibaut nous conseille de mesurer en email marketing et enfin l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emailing. Voilà pour le programme de cet épisode qui était une véritable masterclass. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Thibaut et bienvenue dans le rendez-vous marketing. Trop content de t'avoir. Comment vas-tu?
Salut Daniel. Ça va super bien, merci. Merci de m'avoir.
Avec plaisir. Du coup, je pense que pour commencer, ce serait cool que tu puisses te présenter à l'audience et nous parler un peu de toi, sachant que tu es un spécialiste de l'email marketing pour les e-commerçants.
Ouais, c'est ça. Je gère une agence qui s'appelle Emailio. Donc, on est spécialisé sur la partie email marketing dans le domaine du e-commerce plus spécifiquement. Aujourd'hui, ça va faire presque 3 ans que je suis sur cette thématique de l'email marketing. À la base, j'ai pas du tout un background là-dedans, donc c'était un peu un nouveau pour moi quand je me suis lancé sur le sujet au début. Mais j'avais vu qu'il y avait un vrai besoin sur le marché français sur cette thématique-là. À l'époque, le sujet était un peu sous-traité par les e-commerçants de manière générale. On parlait beaucoup d'acquisition, on parlait beaucoup d'influence. Il y avait plein de sujets comme ça qui tournaient. L'email marketing à l'époque, pas tant que ça. Donc ça m'avait interpellé. Je m'étais beaucoup formé là-dessus et j'avais travaillé pour une agence aussi, une agence américaine sur cette thématique pour me former vraiment correctement sur le sujet. Et maintenant, ça fait 3 ans qu'on accompagne des e-commerçants français, des DNVB françaises sur cette thématique-là spécifiquement.
Ok, super clair. Donc c'est vrai que tu as identifié ça il y a 3 ans, donc on se projette, enfin on se revient sur 2020. 2020, c'était un peu l'année de l'acquisition pour les marques D2C parce que ça coûtait pas cher du tout. Donc je suppose que toi, tu as vu comme
vraiment une demande en croissance à partir de 2021 et de tout ce qui s'est passé au niveau tracking avec iOS, la RGPD, où les e-commerçants se sont dit bah, en fait, il faut se baser plus sur notre donnée first party et CRM pour pouvoir faire du chiffre d'affaires. Si je dois résumer.
Ouais, c'était exactement ça. En fait, c'était assez intéressant parce que moi, je me suis. Initialement, moi, je viens plutôt du milieu financier, donc j'avais vraiment rien à voir avec le milieu du marketing. Donc, je me suis formé à tout ça parce que j'avais lancé une marque e-commerce il y a quelques années. Okay. Et durant cette expérience-là, je m'étais beaucoup formé sur le marketing digital notamment. Et vu que j'ai un background plutôt. Enfin, j'ai travaillé sur les marchés un peu plus anglo-saxons, c'était assez naturel pour moi de me former sur des formations anglo-saxonnes sur les sujets marketing. Et je trouvais que aux États-Unis, ils parlaient beaucoup d'email marketing. C'était un sujet qui était déjà très présent en 2020, enfin même avant en 2019, 2018, 2019. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas en France. Et je faisais beaucoup de veille à l'époque sur des marques françaises, même des marques très réputées. Et je trouvais leur stratégie d'emailing très basique, voire dans certains cas assez mauvaise. Et ça m'avait beaucoup interpellé. Et c'est vrai que quand j'ai lancé l'agence au début, bah voilà, c'était encore un sujet qui était un peu sous-traité parce qu'il y avait vraiment un gros rush sur la partie acquisition, comme tu l'as dit. Tous les changements qu'il y a eu sur le marché courant 2021 a complètement changé la donne. Et on a vu vraiment cette industrie s'évoluer. De plus en plus de prestataires qui commençaient à proposer des services en email marketing. C'est un sujet qui commençait à prendre en fait. Klaviyo est arrivé en fait sur le marché européen aussi à peu près à ce moment-là. Ils étaient déjà là en 2020, ouais. Mais il y avait pas de représentants sur le marché français. C'était encore très très jeune.
C'était en anglais. Enfin, je suppose que même au niveau-là, il y avait la barrière de la langue.
Ouais, c'est ça. Tout était en anglais. Ils n'avaient pas d'équipe française, pas d'équipe dédiée au marché français. Et en fait, ils sont arrivés. Ils ont évidemment commencé à structurer le marché français aussi. Et maintenant, ils ont une équipe, ils ont plus d'une dizaine de personnes qui traitent juste le marché français spécifiquement. Donc, il y a eu un vrai engouement. Et les trois dernières années, il y a eu une accélération sur le sujet qui a été fulgurante. Ça a été assez intéressant de voir l'évolution sur les dernières années.
Ouais. Ouais, parce que ce que j'ai vraiment retenu dans ce que tu m'as dit, c'est que tu as constaté qu'en 2018-2019, c'était déjà un sujet aux USA. Et comme on le sait, les USA, ils ont toujours un temps d'avance. Moi, j'estime souvent entre 3 et 5 ans sur le marché français. Ouais. Donc, tu sais que là, aujourd'hui, tout le monde parle d'email marketing. Tu as 10 000 prestataires maintenant sur LinkedIn qui font des posts sur l'importance de l'email marketing. Et c'est vrai que l'année passée ou encore celle d'avant, mais j'en voyais quelques-uns. Je voyais toi. Je voyais un autre, enfin, je pense que j'en avais 3-4 en tête, j'ai pas tous les cités parce que c'est peut-être des concurrents, donc c'est pas le but. Et j'en voyais pas tant que ça, alors que là, je vois que ça, un peu comme ce qui s'est passé en 2019-2020 avec la création des agences d'acquisition, bah, comme la mienne, où là, aujourd'hui, c'est saturé, mais à un point où tu te dis, mais aujourd'hui, si je dois recommencer, si j'arrive sur le marché et que je me dis, j'aimerais bien faire l'acquisition, je lance pas une agence d'acquisition, c'est trop concurrentiel. Donc, bref, c'est juste le petit point là-dessus. Mais pour l'email marketing, un truc que j'aime bien dire, c'est finalement, l'email marketing, ça coûte beaucoup moins cher que l'acquisition. Parce que finalement, tu dois. Tu as ton CRM, ça a un coût, c'est vrai. Tu dois peut-être travailler avec un prestataire ou tu l'internalises. Mais globalement, en termes de coût, on est d'accord que là, le retour sur investissement de l'email marketing est plus important que sur l'acquisition. De plus que tu travailles notamment sur des bases de clients existants.
Si tu veux, le ROI sur l'email marketing, c'est quasiment ce qui se fait de plus fort aujourd'hui en marketing de manière générale. Non seulement parce que les coûts sont très limités, comme tu l'as dit, la croissance n'est pas liée à une croissance de coûts. Alors évidemment, les forfaits sur Klaviyo notamment vont évoluer selon la taille de la base, mais c'est anecdotique par rapport à ce que tu vas pouvoir générer en termes de CA derrière. Il y a les coûts de l'accompagnement, effectivement, notamment sur les agences ou sur les prestataires, ou si tu veux internaliser, évidemment, tout ça, ça a des coûts. Mais contrairement à l'acquisition, c'est très limité en fait. L'autre chose qui est vraiment hyper impactante en email, c'est que contrairement sur les réseaux, on ne doit pas payer pour pouvoir, au-delà du forfait encore Klaviyo, on ne doit pas payer pour avoir un reach de 100% sur la base. Donc aujourd'hui, tu vas sur Instagram, tu as 100 000 abonnés, tu fais un post, ton post n'ira pas sur les 100 000 abonnés. Ce sera sur une partie infime de ta base Instagram. Contrairement à ta base email, si jamais tu as 100 000 abonnés qui sont toujours abonnés, techniquement, quand on envoie un mail, tout le monde peut le recevoir. Donc l'impact que tu peux avoir est beaucoup plus fort. Tu peux cibler beaucoup plus clairement ce que tu vas dire parce que tu vas faire un mail spécifiquement et donc tu as un message qui est très ciblé avec des call to action qui vont aller aussi très directement vers ce vers quoi tu veux amener l'utilisateur. Donc, si tu veux les amener vers une page spécifique, vers un produit, vers plusieurs produits, tu peux donner le choix. Donc, il y a un pouvoir de frappe avec l'email que tu retrouves pas en fait sur d'autres canaux d'acquisition et qui rend l'emailing aujourd'hui complètement indispensable dans le domaine du e-commerce, c'est certain.
Tu sais, moi, j'ai pas commencé forcément dans l'e-commerce, j'ai commencé dans tout ce qui est formation en ligne et services. Et en fait, ce qu'on dit souvent dans la formation en ligne, c'est money is in the list. Parce qu'en fait, on disait souvent, bah, voilà, si tu fais la formation en ligne, tu as besoin de développer ta liste. C'était le mot d'ordre de développer sa liste. Et en e-commerce, c'est pas exactement le même raisonnement. C'était toujours, bah, il faut mettre du budget dans l'acquisition sur Facebook et sur Google parce que c'est pas cher, parce que c'est du trafic quasiment gratuit. Enfin, on se comprend, tellement c'était pas cher à l'époque. Et maintenant que ça coûte cher et maintenant c'est difficile parce que c'est concurrentiel, on revient aux fondamentaux et on dit, bah, en fait, maintenant, il faut faire l'email marketing parce que, comme tu dis, c'est très rentable. Tu peux segmenter tes messages, tu peux potentiellement toucher toute ta base. Évidemment, si la base, elle est bien qualifiée, que les gens sont toujours engagés et qu'ils ne reçoivent pas les mails en spam. Donc, c'est vrai que c'est là qu'on voit toute la puissance du truc et c'est pas trop étonnant qu'aujourd'hui, t'as plein de marques e-commerce qui s'y intéressent. Peut-être une question que je peux te poser, c'est à quel moment c'est intéressant pour une marque de faire l'email marketing? À quel moment c'est intéressant, que ce soit en termes de chiffre d'affaires ou de stade de développement, de se dire, OK, maintenant, j'investis du temps, du budget dans de l'email marketing?
Alors, pour moi, il y a deux niveaux à cette réponse. C'est premièrement, je pense que ça vaut la peine d'avoir quelque chose, même si c'est très basique, même si c'est juste sur les points principaux, sur deux, trois flows, sur deux, trois choses spécifiquement. Avoir quelque chose en place dès le début, c'est toujours une bonne stratégie. Donc, même si tu commences aujourd'hui, t'ouvrir un compte sur Klaviyo ou même sur MailChimp au début, si tu veux pas mettre, parce que Klaviyo coûte $20 de plus que MailChimp ou que sais-je au tout début, et que tu veux vraiment cibler tes coûts, avoir quelque chose en base dès le début, c'est important. Parce que ça va permettre d'amplifier tout ce que tu vas faire. Donc quand tu vas investir dans l'acquisition, eh bien, tes flows ou derrière, ils vont permettre de mieux convertir et donc tu vas être plus rentable dans ce que tu vas faire en acquisition. Et donc ça crée un cercle vertueux qui va après pouvoir t'aider à décoller. Donc ne pas sous-estimer cette partie-là dès le début. Après, ça ne veut pas dire que tout le début, si jamais tu es une toute petite marque, que tu n'as pas de budget, que tu viens de te lancer, etc., effectivement, ne va pas payer 2000 euros, 3000 euros, 10 000 euros dans un accompagnement emailing. Ce serait complètement... moi, ça m'arrive de parler avec des marques qui prennent contact parce qu'ils s'intéressent, mais quand ils sont vraiment trop petits, je leur dis non, ne mettez pas de budget là-dedans, faites-le vous-même. Vous avez des tutos, vous allez sur YouTube, vous trouvez 2-3 tutos, vous faites les flows de base, vraiment de base de base, et vous avancez avec ça.
Je leur dis
une
pareil.
Fois que donc ça c'est vraiment l'étape numéro 1. Une fois que tu vois qu'en fait dans ta stratégie d'acquisition, tu commences à avoir du trafic sur ton site régulier, que tu vois que tu as bien compris en fait maintenant qui est ton audience, comment tu peux la faire venir sur ton site et que tu peux commencer à générer du trafic sur le site. Là, ça commence à être intéressant pour pouvoir investir davantage et effectivement, ça va dépendre après des volumes que tu vas faire. J'ai pas de chiffre exact à te dire dès que tu fais tant, il faut investir dans ça. Pour moi, c'est plus une question de traction, c'est plus une question de te dire OK, là maintenant en termes d'acquisition, on a compris ce qu'on doit faire, on a compris où on veut aller. Maintenant, on va mettre du budget emailing parce qu'on sait que le trafic va arriver et on sait que ça va qu'il va falloir le convertir. Donc encore une fois, après c'est y aller étape par étape, faut pas se brûler les ailes à mettre 40 flows d'un coup. Et après espérer avoir un ROI sur tout ça et dépenser des fortunes là-dedans. Moi, sur les marques qui font aujourd'hui, tu vois, qui sont à 10, 20, 30 000 euros mensuels de chiffre d'affaires, je leur dis toujours mettons des choses en place, oui, parce qu'il faut que vous ayez quelque chose en place. Vous avez validé votre produit, vous avez validé votre audience. Donc, mettons des choses en place, mais ne perdez pas de vue qu'aujourd'hui, votre attention, elle doit être encore sur le fait de vous faire connaître, sur le fait de grandir votre audience. Et donc, le cœur de votre budget doit pas aller là-dessus. Et après, évidemment, une fois qu'une marque a de l'attraction, donc on passe sur des volumes maintenant de trafic où il y a plusieurs milliers de visiteurs tous les mois sur le site, des bases qui commencent à grandir, tout ça. Là, après, on peut commencer à investir effectivement et des marques qui sont en traction, qui ont une bonne traction commerciale, doivent investir aujourd'hui dans l'email marketing d'une manière ou d'une autre, c'est certain.
Très, très, très clair pour moi. Je voulais dire quelque chose, c'est que du coup, dès le départ, en fait, tu conseilles aux marques d'investir dans le meilleur outil sur le marché qui est Klaviyo selon toi. Donc là, c'est Klaviyo, l'outil idéal parce que peu importe que tu fasses un petit ou un gros chiffre d'affaires, tu vas quand même paramétrer dès le départ des flows automatisés qui vont te permettre de générer du chiffre et a priori plus de chiffres que sur une plateforme qui n'est pas dédiée à ça comme Mailchimp, qui est peut-être pas l'idéal, et qui te permettra d'avoir plus de traction dans le futur et de commencer à complexifier tes flows et éventuellement d'investir plus de budget dans l'email marketing.
Oui, concrètement, même les petites marques, moi je conseille toujours de passer sur Klaviyo parce que c'est une base de travail qui après va pouvoir perdurer dans le temps et ça permet d'après d'éviter des chantiers un peu parfois qui peuvent être un peu complexes ou qui peuvent être un peu voilà par la suite avoir une bonne base dès le début c'est toujours mieux donc nous moi je le conseille toujours hein, de commencer sur Klaviyo directement après ça arrive que t'aies des marques qui me contactent, qui sont déjà sur Mailchimp, qui ont déjà quelque chose de plugué sur Mailchimp, et ben je leur dis ne touchez pas à ça maintenant, c'est pas le moment, vous êtes encore beaucoup trop jeune, beaucoup trop petit pour pouvoir vous prendre la tête avec ça. Par contre, effectivement, le jour où va falloir un peu devenir un peu plus sérieux sur le sujet, aller un peu plus loin, là il faudra passer sur Klaviyo. Nous personnellement, chez Emailio, on travaille pas sur un autre outil que Klaviyo aujourd'hui sur l'e-commerce, tout simplement parce que si les marques sont sérieuses et qu'elles veulent faire du bon travail, il faut travailler avec les bons outils. Mailchimp est un outil qui fait du très bon travail sur plein de sujets liés à l'email marketing, mais dans le domaine du e-commerce spécifiquement, c'est juste pas au niveau de Klaviyo. Donc voilà, nous on est exclusif là-dessus, non pas parce qu'on a un besoin d'être exclusif, mais parce qu'on le souhaite pour des raisons de performance et de cohérence de stratégie, quoi.
Ok, j'ai compris. Si on revient un peu sur le stade de développement des marques, donc tu parlais des stades entre 10 et 30K, moi je voulais aussi te poser une question sur la taille de la base. Pour toi, c'est quoi une petite base? C'est quoi une personne? Une base moyenne et une base qui est élevée? Et puis après, j'aimerais bien qu'on puisse traiter un peu le sujet ben, selon qu'on ait une petite base, une base moyenne ou une base élevée. Donc je suppose qu'évidemment, plus on fait de chiffre d'affaires, plus on a des bases email qui sont élevées.
Ouais. Alors pour moi, une petite base, en gros, c'est en dessous de 10 000 abonnés. C'est des petites bases, c'est-à-dire qu'en dessous de 10 000 abonnés concrètement les stratégies sont très simples par rapport à ta base, il n'y a pas matière à sur-segmenter les choses, il n'y a pas matière à aller trop loin dans ces sujets-là. L'objectif c'est de pouvoir communiquer régulièrement et voilà, et d'avoir une stratégie quand même, mais ça reste c'est petite échelle, on va dire. Dès lors que tu passes à peu près aux 10 000 abonnés, alors évidemment c'est pas, ça dépend aussi de ton panier moyen, ça dépend de ta récurrence d'achat, il y a d'autres paramètres. Hein. La taille de la base, c'est pas la seule chose qui compte dans les stratégies, mais c'est un indicateur, effectivement. Au-delà de 10 000 abonnés, tu commences à avoir quelque chose qui devient plus conséquent. Et j'ai envie de dire, entre 10 et 50, t'es sur une croissance qui est intéressante, tu peux commencer à complexifier un petit peu les choses. Et dès lors que tu passes au-dessus de 50 000 abonnés, là, tu commences à être dans quelque chose qui devient sérieux. Oui. et qui mérite une attention encore plus particulière. Donc voilà, il y a des paliers. Nous, effectivement, quand on est sur des plus petites bases, on adapte les stratégies aussi par rapport à ça, parce que c'est important d'adapter évidemment aussi, ouais, par rapport à la taille de la base. C'est certain.
Ouais, c'est de ça dont je voulais parler. Enfin, moi, pour moi, quelqu'un qui a une base de 50 000 abonnés, c'est que forcément, il fait beaucoup de chiffres à la fin de l'année, parce, ouais, que. Voilà. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, pour moi, un abonné, ce n'est pas forcément un client, même si dans le cas d'un e-commerçant, une grosse partie de nos abonnés sont généralement des clients. Pourquoi ? Parce que quand on fait une commande, on dit « Veux-tu recevoir également un utilisateur ?» ou un truc comme ça. Donc, on est automatiquement abonné. Bien sûr, on peut, je pense que ça, je peux le dire rapidement, une façon de récolter les emails en e-commerce, c'est de proposer un petit pop-up ou une petite offre, un cadeau, un moins 10%, de façon à récolter l'adresse email du client et après avoir des séquences email. Mais ça, on va en parler peut-être un peu plus en détail, mais globalement, la majeure partie des abonnés pour moi chez un e-commerçant, c'est déjà des clients, mais ça peut être également des gens qui n'ont pas encore acheté et qui sont venus via un lead magnet. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus.
Ouais, effectivement. Alors après, ça va dépendre de la typologie de la marque, un petit peu des types de produits qu'ils vendent et la capacité à convertir tout de suite. Nous, c'est vrai que le pop-up, c'est un sujet qu'on traite très sérieusement chez Emailio avec les marques qu'on accompagne. On va assez loin dans cette partie-là parce que c'est un sujet qui, je trouve, assez essentiel. Quand tu sais que tu peux convertir pour un certain pourcentage de ton trafic que tu as payé pour faire venir sur ton trafic et tu peux le convertir dans ta base pour après pouvoir les relancer, les recontacter dans la durée, je trouve que connaissant les prix aujourd'hui que les marques payent pour pouvoir faire venir le trafic sur le site, c'est un sujet qui est, je trouve, très important, qui est très souvent sous-valorisé par les marques parce que il y a cette idée comme quoi le pop-up est invasif, que ça va poser problème aux conversions, tout ça. Mais nous, on a fait plein d'AB tests là-dessus et on voit que un pop-up bien paramétré et qui apporte de la valeur va être bénéfique au global sur la stratégie. Et donc, ce qui fait que nous, les marques qu'on accompagne, ils ont aussi plein d'abonnés qui ne sont pas forcément toujours des clients tout de suite.
D'accord.
Donc ça pose des enjeux par la suite aussi, évidemment, de ne pas embaser des gens et des gens et des gens qui sont en finale juste là pour être là et qui vont pas au final passer à l'achat. Évidemment, tu ne veux pas non plus construire des énormes listes de juste d'abonnés. Il faut construire des listes de clients, effectivement. Mais au moins, on se donne plus de temps pour pouvoir les convertir. Et c'est là où les stratégies plus poussées vont avoir leur intérêt. Mais oui, donc le pop-up, effectivement, c'est un sujet important. Et ce qui fait qu'on peut avoir des bases qui peuvent être plus ou moins équilibrées entre clients et non-clients.
Ouais.
Voilà. Donc
Ouais,
ça varie, en fait.
c'est quoi le ratio que tu vois généralement en moyenne, encore une fois, grosse fourchette, entre client et non-client dans une base email pour un e-commerçant? Est-ce que tu as une idée ou est-ce que c'est vraiment trop spécifique comme question?
Franchement, on voit de tout. On voit de tout. Moi, j'ai vu des bases qui étaient des grosses bases avec 70% de clients et 30% de non-clients. Et là, tu sais que tu as eu affaire à, enfin, ça se voit que la marque a surtout focalisé sur la vente. Ils n'ont pas forcément travaillé sur une croissance de base spécifiquement. Donc là, tu sens que voilà, qu'il y a un potentiel pour aller encore plus loin. Parce que c'est dans l'idéal, en fait, tu as quand même une base où il y a aussi des prospects. Parce que ça veut dire que tu donnes les moyens d'aller convertir les gens. Donc j'ai pas vraiment de chiffres particuliers, mais c'est vrai que voilà, si tu as 50-50 ou même que tu as une majorité de gens qui sont. Alors, si tu commences à avoir 80% de tes abonnés qui ne sont pas clients dans ta base, là, effectivement, c'est un peu un red flag. Et là, pour le coup, c'est un sujet qu'il faudrait prendre à bras-le-corps et créer des stratégies autour de ça
C'est ça.
pour pouvoir aller convertir ses abonnés. Mais si tu as une stratégie, on va dire, assez proactive sur la capture de mail et que tu as une base à peu près à 50-50 clients, non clients, je trouve que c'est assez équilibré, ça me paraîtrait pas problématique.
C'est ça. C'est vrai qu'on n'a pas parlé forcément au début, mais l'email marketing, on pense beaucoup à tort que c'est que de la rétention, mais non, il y a aussi l'acquisition. On peut avoir des gens qui sont seulement abonnés et qui n'ont pas encore acheté et qui vont acheter. À ce propos, j'avais une remarque sur le podcast, donc Emile, Aurélie, pardon, de Soi Paris, qui m'expliquait, ben voilà, moi j'ai fait de l'acquisition sur Facebook pour aller chercher des adresses email. Je pense qu'elle avait donné ses coûts, mais c'était vraiment sur moins de 50 centimes pour avoir un email et qu'après derrière elle convertissait avec une séquence de bienvenue. Bon, ça pour ceux qui s'intéressent, vous pourrez écouter l'extrait ou le podcast que j'ai fait avec elle. Mais tout ça pour dire qu'il y a quand même des e-commerçants qui ont cette stratégie d'aller chercher des abonnés parce qu'ils savent que ça coûte pas cher et parce qu'ils savent aussi que bah, pour je sais pas, 100 abonnés, ils vont convertir peut-être un ou deux ou trois. Et ça, c'est vraiment intéressant, je trouve aussi, de voir cette logique-là.
Ouais, alors ça, moi, si jamais une personne qui nous écoute se décide de faire ça, attention à pas non plus faire ça de manière incontrôlée. Parce que, en fait, le danger de construire une base qui est trop fortement sur des gens qui sont en fait là parce qu'ils ont une carotte, parce qu'ils ont eu un magnet, parce qu'ils ont eu une petite offre spécifiquement, mais qu'ils n'ont pas en fait amené à la conversion, c'est qu'ensuite, après, tu as des bases qui deviennent de moins en moins qualitatives. Et après, ça peut poser des problèmes par la suite sur la délivrabilité. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai parlé avec une marque qui a des problèmes de délivrabilité et avec qui j'ai discuté. En fait, je me suis rendu compte qu'ils ont des formulaires sur Facebook, pardon, où en fait, justement, ils embasent les gens via ces formulaires, ils font des connexions et ils font rentrer les gens dans le clavier directement. Et aujourd'hui, ils tombent en spam parce que je leur ai dit, ben oui, mais aujourd'hui, vous avez plus de 40% de votre base qui vient de ces formulaires-là, qui sont pas des gens qui ont converti, c'est des gens qui sont pas là pour acheter tout de suite. Et pourtant, et ils sont là même de manière pas forcément très directe parce qu'ils n'étaient pas sur votre site à la base. Voilà, c'était un petit peu, la connexion est un peu floue. Et donc, en fait, les gens se désinscrivent massivement de ces emails. Limite, ils cliquent sur le spam parce qu'ils ont pas envie d'être là et qu'ils sont pas contents de recevoir des emails. Donc oui, mettre en place des stratégies pour être un peu plus proactif sur la capture de mails, c'est très bien. Mais attention à pas le faire de manière incontrôlée et toujours tester ce que vous faites. Et si jamais vous faites des stratégies comme ça, toujours bien s'assurer de cleaner votre liste, donc faire le nettoyage de votre liste après pour être sûr que vous n'allez pas garder des abonnés pas qualifiés dans votre base.
Ouais, ça, je voulais en parler aussi du nettoyage de la liste. Évidemment, plus on est gros en taille, plus il faut nettoyer régulièrement. Mais je te propose peut-être de passer un peu ce que j'avais en tête au départ, c'était de un peu revenir sur les essentiels pour les marques qui vont, on va dire, faire moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Je pense que c'est pensais très bien que quand une marque fait moins d'un million et qu'elle fait plus, quand elle fait plus d'un million, c'est encore un autre stade. Donc, je vais peut-être discuter de ce type de marque-là pour commencer et de voir avec toi, bah, déjà, quel type d'email tu envoies, quel type d'email tu conseilles pour ces marques-là. Et également, parce qu'on parle de ça également, quel type de flow, parce que bah, dans l'email marketing en e-commerce, on différencie bah, les newsletters qu'on va envoyer à des fréquences régulières et les flows qui sont automatisés et qui vont dépendre bah, du fait qu'une personne ait acheté tel ou tel produit, qu'elle ait visité telle page produit ou, et n'a pas acheté, ou qu'elle ait acheté des produits au panier et qu'elle n'a pas acheté. Enfin, je sais qu'on a toujours des flows selon différentes actions qui ont été entreprises sur le site ou directement dans la base. Donc, je veux bien peut-être qu'on parle de ça. Et puis après, on fait un peu le même travail mais pour les plus grosses marques.
Ouais. Écoute, pour les plus petites marques, entre guillemets, en dessous d'un million d'euros de chiffre d'affaires, je pense que la clé, c'est d'avoir des fondations solides sur la partie emailing. Et de ne pas chercher à trop complexifier les choses, parce que souvent je vois des marques qui sont qui ont encore une petite taille relative et qui commencent à lancer plein de chantiers, qui lancent des flows, 40 flows avec plein de branches partout et qui commencent à mettre plein de choses en place parce qu'ils ont quelqu'un en place qui, chez eux qui s'occupe de ça et qui donc pense qu'il faut absolument mettre plein de choses en place. Moi je pense que ce que je conseille avec les marques à cette taille-là à peu près de chiffre d'affaires, c'est d'avoir un peu les essentiels en place et d'être solide dans les fondamentaux. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire sur la partie automation, il y a à peu près, allez, 8 flows, je pense qu'il faudrait avoir de manière classique pour quasiment toutes les marques. Alors évidemment, petit aparté là-dessus, il faut toujours adapter ça à votre marque et à votre typologie de produit, à la manière de consommer des produits sur le site. Si tu es monoproduit, si tu as plusieurs produits, évidemment, ça va sensiblement pouvoir changer la stratégie. Mais au global, aujourd'hui, il y a quand même des flows qui reviennent quasiment tout le temps. Déjà, le flow de bienvenue à newsletter, c'est quand même le point d'entrée pour construire une relation avec un abonné. Donc, quelle que soit ta taille, c'est bien d'avoir quelque chose en place et ça construit une relation, donc c'est très important. Et c'est un flow de conversion aussi, il ne faut pas l'oublier. Ça m'arrive de voir des marques qui considèrent que le flow de bienvenue, c'est un flow de branding. Alors qu'en réalité, c'est un flow qui peut être tout à fait aussi un flow de conversion et qui l'est très souvent d'ailleurs. Donc ça, c'est qui mixe en fait, c'est un flow qui mixe branding et conversion. D'accord. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu le flow numéro 1, j'ai envie de dire. Le flow numéro 2, qui en termes d'importance est tout aussi important, c'est le flow de panier abandonné. Donc une fois qu'une personne met un produit dans le panier et va sur le checkout, on l'appelle panier abandonné. En réalité, c'est un flow de checkout abandonné. Donc la personne met son produit dans le panier, va sur le checkout, met ses informations, mais ne finit pas le paiement. Là, effectivement, tu as quelqu'un qui est tout à fait prêt à passer commande, mais qui ne l'a pas fait. Donc les emails sont très importants. Donc ça, c'est un flow important. Et puis ensuite, après, c'est voir un petit peu les différentes étapes qui vont se passer avant la conversion, donc avant le checkout. Donc on a le flow de add to cart, on appelle. Donc, c'est littéralement, c'est le flow de panier abandonné. Donc, la personne met un produit dans son panier et sort du site et donc ne va pas sur le checkout. Ça, c'est un flow qu'on peut mettre en place aussi. Pour faire une petite relance en disant, tiens, on a vu que tu avais mis ton produit dans le panier, mais que t'es pas allé au bout, invitation à revenir sur le site. On a aussi, de manière assez classique, un flow de navigation abandonné. C'est-à-dire que la personne qui est déjà en basé vient sur le site, regarde une page produit, et s'en va à nouveau, petite relance aussi par mail. Évidemment, il faut toujours mettre des filtres pour pas que ce soit à chaque fois qu'ils viennent sur le site, dès qu'ils cliquent sur un bouton, ils reçoivent des mails. Ça, c'est pas l'idée. Mais de temps en temps, avoir un petit mail de rappel, tiens, on a vu que tu es passé sur notre site. Et voilà, petite relance là-dessus.
C'est important.
Donc, entre le flow de bienvenue, ouais, ça, c'est un peu les quatre flows de conversion importants à avoir pour pouvoir maximiser les conversions sur le site.
D'accord.
Donc ça, c'est la phase, on va dire, pré-conversion. Ensuite, tu as la phase post-achat. Donc, qu'est-ce qui se passe une fois que la personne a passé commande ? Donc là, généralement, on met un flow littéralement de post-achat qui va être activé tout de suite après la commande. Et souvent, c'est un flow qui va être un flow plutôt de construction de relation avec le client. Donc, évidemment, un flow de remerciement. Pousser pourquoi pas les réseaux sociaux pour que la personne participe à la communauté sur les réseaux. Si jamais tu as un produit qui demande un peu de pédagogie, pousser un petit peu de pédagogie aussi autour du produit pour pouvoir onboarder le client de la meilleure manière possible. Apporter de la valeur via ce flow, c'est toujours important. C'est possible que sur ce flow, si jamais tu as du cross-sell très évident par rapport à un produit, Tu peux aussi glisser des petits cross-sells dans ce flow-là pour pouvoir aller chercher de la valeur. Parce que c'est, encore une fois, c'est logique. La personne vient de passer de commande sur ce produit. On a d'autres produits qui sont en lien et qui peuvent apporter de la valeur aussi. Donc, du moment que ça va dans la continuité de l'expérience de l'utilisateur, ça peut avoir sa place aussi dans ce flow-là. Voilà. Donc là, c'est un flow de post-achat qui est dédié. Et puis ensuite, on a les flows plutôt de rétention. Donc, un flow de réachat. Donc, encore une fois, ça va dépendre de tes produits. Mais si tu as un produit qui se consomme, avoir un petit flow de réachat à la fin, une fois que le produit a été consommé, ben, c'est tout à fait logique et normal d'avoir une petite séquence de relance. On a un flow ensuite de réengagement de clients inactifs. Donc, ce qu'on appelle un win back. Donc, c'est quand quelqu'un a passé commande, n'est pas revenu sur ton site depuis plusieurs mois. Souvent, un win back, on est à peu près à 6 mois, on va dire, la relance à 6 mois. Donc là, c'est un peu un flow de relance pour aller rechercher les gens. Voilà, je pense qu'en dessous d'un million d'euros de chiffre d'affaires, déjà, si tu as, là, il y en avait quoi? Il y en avait à peu près 7, je crois.
Oui.
C'est déjà très solide. Voilà, donc tu as plein de marques aujourd'hui qui font plus qu'un million et qui n'ont même pas ça. Donc c'est.
J'ai failli dire ça. J'ai failli dire ça. C'est que je connais des marques qui font plus que ça et qui n'ont pas ces flots-là. Ou alors,
Voilà.
ça c'est encore un autre sujet qu'on ne pourra pas aborder aujourd'hui, c'est que ces flots-là ne sont pas très bien optimisés, les mails sont moyens, il y a 3 lignes dans le mail, t'as pas trop envie de revenir. Ça c'est encore un autre sujet. C'est bon, ok, il y a le flow, mais après il y a ce qu'il y a derrière. Donc le copywriting, et je compte bien en parler après.
Ouais.
Bon. Moi, ce que j'aime bien, ce que tu as raconté ici, c'est que tu as finalement des flows, on va dire top of the funnel, donc bienvenue, newsletter, des flows middle of the funnel, c'est-à-dire flow de checkout, de panier abandonné, et des flows de bottom of the funnel. Enfin, je pourrais mettre également les checkout, pardon, bottom of the funnel, mais également, bah, évidemment, tous ceux que tu as cités sur les clients existants. Donc vraiment intéressant.
Après, il y a d'autres choses hein, sur les marques en dessous d'un million d'euros de chiffre d'affaires. Bah, comme on l'a mentionné tout à l'heure, avoir un pop-up optimisé, c'est pertinent, même en dessous d'un million d'euros de chiffre d'affaires. Je pense que c'est pertinent dès le début même, parce que dès le début, on peut capter du mail et construire la base. Et donc, dès le début, c'est un best practice à mettre en place.
Bien
Donc,
sûr.
moi, je conseille souvent dès le début d'avoir des bons pop-up. Et nous, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on fait de l'A/B test. Donc, on va créer plusieurs versions, on va A/B tester, on va voir un petit peu les différences. Bah, qu'est-ce qui convertit le mieux, comprendre un petit peu ce qui convertit le mieux, puis après on optimise et on crée des pop-ups très performants. Ça c'est important. Même en dessous d'un million d'euros de chiffre d'affaires, on commence déjà à intégrer de la prise de data sur l'expérience, enfin sur le client, parce que je pense que un des objectifs des plus petites marques entre guillemets, c'est de connaître leurs clients. Donc nous, ce qu'on conseille de faire, c'est dès le début commencer à mettre des petits points de conversation avec les clients, donc en post-achat par exemple, mettre un petit mail en disant tiens, on souhaiterait apprendre à mieux vous connaître, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à passer commande chez nous et quelles sont les problématiques que vous voulez résoudre. Enfin voilà, il y a toujours, et encore une fois, ça va s'adapter un petit peu à la marque spécifiquement, mais collecter de la data assez rapidement dans le développement de la marque, ça va vous donner après, enfin ça va donner aux marques après. Des meilleurs outils pour pouvoir construire les stratégies dans la durée. Donc en gros, si jamais tu collectes n'importe quoi, tu as un produit qui peut avoir 3 audiences différentes, tu mets en post-achat, dites-nous, aidez-nous à mieux vous connaître, quel profil vous correspond le mieux, et tu vois en fait, après 6 mois que tu as mis ça en place, que 80% des gens, ils achètent le produit par rapport à telle problématique, bah évidemment, c'est un indicateur pour toi qui est très important. Et que tu n'aurais pas forcément si jamais tu n'avais pas posé la question. Parce que bah, les gens, ils achètent, tu sais pas trop pourquoi ils ont acheté, mais ils ont acheté, donc tu es content. Mais quand tu commences à avoir du scale, là, cette conversation, elle commence à être importante.
Je suis d'accord avec toi, parce qu'en effet, sur le checkout, c'est ça que j'allais dire, tu récupères certaines informations. Tu récoltes généralement l'adresse, le numéro de téléphone, bon, ça c'est pas important, pardon, le genre, l'âge de la personne, mais tu sais pas pourquoi elle achète. C'est qu'à la fin, c'est bien de dire, il y a une marque que j'aime bien, qui est aussi passée sur le podcast, s'appelle Anatae, j'ai fait une commande sur son site récemment. Bah, ce qu'elle me dit, c'est où est-ce que tu m'as découvert? Ça, c'est déjà bien de le dire, mais après, il faut peut-être aller peut-être encore plus loin, comme tu dis, et qu'est-ce qui décrit mieux votre profil, ou c'est quoi vos objectifs, ou. Enfin, peu importe, les deux, trois questions qui te permettent de mieux qualifier ta base, c'est important de pouvoir les poser à ce moment-là, parce que moi, franchement, j'ai répondu assez facilement. J'ai voulu justement aller voir tout à l'heure le statut de ma commande. Bah, j'ai retapé le lien, ou je sais plus quoi, j'ai retapé un lien. Non, j'ai cliqué sur un bouton dans un mail qui me renvoyait vers ce même endroit où j'ai répondu au questionnaire. Je trouvais ça intéressant parce que je revoyais mes réponses. Donc, je trouve qu'il y a des trucs qui sont parfois très intelligents à faire et que tu peux faire assez facilement sur ton Shopify ou d'autres d'autres CMS. Et le point que je vais rajouter, c'est au niveau du type de newsletter, qu'est-ce que tu conseilles également là sur des choses qui sont moins récurrentes, mais qui sont plus ponctuelles? Tu sais, il y a toujours les newsletters un peu annonces, nouveautés, mais après, tu peux en avoir d'autres où tu vas proposer du contenu. Enfin, qu'est-ce que tu conseilles là-dessus pour, encore une fois, nos marques qui font moins de 100 000 euros par mois?
Ouais. Alors, pour les marques qui font moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires, ce que je conseille de manière générale, c'est de communiquer. Enfin, après, quand tu es tout petit et que tu as 1000 abonnés, évidemment, tu vas pas faire 3 mails par semaine, hein, ça c'est une certitude. Donc, faut raisonner les choses. Mais une fois que tu commences à avoir de l'attraction, communiquer régulièrement, c'est très important. Donc, au minimum, nous, ce qu'on préconise, c'est minimum une fois par semaine. Faire une petite newsletter une fois par semaine, c'est un peu le minimum pour pouvoir rester top of mind par rapport aux clients et aux abonnés. Ce qu'on conseille, c'est d'avoir une approche qui soit assez simple, c'est-à-dire pas chercher à faire des grosses stratégies trop complexes, partir trop loin dans les stratégies. C'est avoir des templates qui soient efficaces, avoir un objectif avec ton mail qui soit très clairement identifié. Pas mettre 40 choses dans ton mail parce que tu dis tiens, je vais faire un dump de tout ce qui se passe dans ma tête là maintenant et je vais tout mettre dans le mail et puis on va espérer que ça clique. C'est pas mal, ça peut être OK de faire des formats avec plusieurs choses dans un mail, type un format fin de mois, on vous débrief, il y a plusieurs sujets, etc. Ça, c'est un format qui peut être OK. Mais dans 95% des cas, nous, ce qu'on préconise, c'est un mail, un objectif et on reste focus sur ce sujet-là.
C'est ça.
Et voilà, donc comme ça, tu as une communication qui est efficace, qui est impactante. Communiquer entre une à deux fois par semaine, voilà, deux fois max, je pense, sur des marques en dessous d'un million, ce sera largement suffisant. Et après, évidemment, avoir un mix entre du push produit et push commercial et du push de marque. Parce qu'évidemment, il faut travailler ta marque aussi auprès des abonnés. Et faut pas, si tu commences à faire que du mail, que de promo-ci, que de promo-là, à un moment donné, les abonnés, ils vont décrocher, ils vont perdre la connexion avec la marque. Donc, nous, ce qu'on conseille toujours dans ces cas-là, c'est d'avoir un bon mix pédagogie, voilà, mettre en avant la marque et pousser du produit pour évidemment essayer de convertir aussi. Donc, voilà, un bon mix de ce point de vue-là, des templates qui sont efficaces.
Très clair pour moi. Deux questions qui me viennent en tête. Et déjà, quand je parle de très bon mix, c'est dans le mail en lui-même ou alors c'est plutôt avoir, je sais pas, un mail produit, un mail marque ou deux mails produits, un mail marque. Enfin, peut-être ça pourrait être intéressant là-dessus. Et après, j'en ai encore une autre, mais je te pose.
Bah, c'est un peu les deux. Mais c'est-à-dire que nous, dans les calendriers qu'on va construire sur des marques comme ça, on va mettre en place, le mardi, on va pousser tel produit. Le samedi ou le dimanche, on va pousser tel sujet.
D'accord.
Donc, on va alterner. Après, ça arrive sur des marques où on fait les deux. C'est-à-dire qu'on va faire des mails juste pédagogiques ou juste produits. Et des emails où on va faire les deux, on va mettre les deux l'un dans l'autre parce que parfois on a du contenu qui va venir compléter le produit. Donc ça c'est le best case scénario, c'est t'as un produit qui est lié à une thématique et en dessous tu peux mettre du contenu qui est sur cette thématique là. Ce qui fait que l'expérience que la personne a sur ton mail elle est fluide parce qu'elle voit le produit, elle voit le contenu et donc il y a une cohérence.
Ouais, j'aime bien ça.
Voilà. Ça c'est le best case.
J'ai un client qui fait ça, qui est aussi passé sur le podcast, une tripure, c'est que eux, ils ont un peu leur pure news du samedi, ou enfin, je sais qu'ils l'envoient le samedi, et en fait, la pure news va dépendre un peu de la saisonnalité. Donc là, actuellement, on est dans un peu la saisonnalité où il fait froid, il faut plutôt faire attention à son immunité. Ben, la semaine dernière, je pense, ou la semaine, il y a deux semaines, ils ont fait une pure news sur l'immunité, où ils donnaient des conseils à la fois pour l'immunité, donc des articles, des conseils vraiment pratiques que tu as dans le mail, et à la fin, bien sûr, ils poussaient quelques produits qui sont des indispensables dans cette période plutôt hivernale. Donc ça, je trouve ça intelligent. Et il y a toujours moyen de trouver des thématiques dans ce fameux mail thématique du samedi ou du vendredi, peu importe quand on le met, mais que l'on sait qu'on va recevoir toutes les semaines. Et après, derrière, comme tu dis, il y a toujours de la place, peut-être en milieu de semaine ou à un autre moment, de pousser un produit, pousser une nouveauté, pousser une actualité qui peut être intéressante.
Exactement.
Ok, top. Non, en fait, j'avais une autre question sur les flows. C'était sur les flows de relance d'abandon de panier ou de check-out, comme tu disais. On sait que c'est un des flows les plus importants et je voulais te poser des questions là-dessus. C'est quels sont tes conseils, tes recommandations pour bien optimiser ce flow-là? C'est-à-dire à la fois en termes de copywriting ou qu'est-ce qu'il faut dire et de combien de mails il faut avoir. Parce que c'est vrai qu'à quel moment tu abandonnes en quelque sorte le prospect qui n'a pas acheté?
Ouais. Alors, ça, c'est quelque chose qu'il faut, je pense, A/B tester pour pouvoir avoir vraiment les réponses, parce que nous, on peut avoir des idées préconçues sur ce qui va marcher ou pas, mais en fait, après, c'est la data qui nous dit. Donc, nous, généralement, ce qu'on fait, c'est quand on commence sur un compte, on va commencer souvent avec au moins 4 mails sur un panier, sur un flot de panier abandonné, parce que, il faut pouvoir relancer la personne sur plusieurs jours, avec une pression peut-être un peu plus forte au début. Donc, envoyer un mail assez rapidement une fois que la personne a abandonné le checkout.
Combien de temps, un peu plus ou moins, si je peux me permettre, genre 1 heure après, 2 heures, 3 heures, 4 heures.
Ouais, ça varie entre nous. Ce qu'on fait souvent, c'est entre 30 minutes et au max 4 heures.
D'accord, ouais,
30
donc c'est
minutes et 4 heures à peu près.
vraiment.
Voilà. Donc, l'idée, c'est que juste après que l'expérience, enfin, que la personne elle est limite encore à côté de son ordi ou elle est encore dans l'action, qu'elle puisse recevoir une relance. 4 heures, c'est déjà long. Donc, 30 minutes, c'est plutôt la base. 30 minutes ou 1 heure, c'est plutôt le standard. Sur des marques beaucoup, enfin, qui veulent être plus agressives, ça peut même se faire sous 10 minutes, 10, 15 minutes. Donc, c'est des marques qui veulent absolument convertir tout de suite. Et donc, j'ai vu plusieurs fois des marques qui faisaient ça très rapidement après. Mais nous, les best practices, c'est 30 minutes ou 1 heure après le premier abandon. Et puis après, tu espaces évidemment les relances de telle sorte que ce soit pas non plus du spam. Et que aussi tu donnes l'opportunité à la personne de, bah, peut-être que c'est juste pas le bon moment pour elle de convertir tout de suite, peut-être qu'elle a besoin d'un jour ou deux plus. Donc en fait, nous après on espace de 1 ou 2 jours pour les relances, ce qui fait qu'en fait la séquence elle va durer en tout et pour tout, elle va durer à peu près 5 6 jours quoi. Et
D'accord.
voilà. Et donc ça c'est l'étape numéro une on va dire par rapport à ça pour pouvoir avoir déjà quelque chose de sérieux. Ensuite, évidemment, ce qu'il faut faire, le best practice là-dessus, c'est de faire de l'A/B test sur les objets de tes emails, parce que enfin, l'objectif numéro un, c'est que tes emails, les gens les ouvrent. Et donc, à faire de l'A/B test sur les objets, c'est toujours important. Et d'A/B tester aussi les délais. Là, on a parlé de 30 minutes, 1 heure. Bah, potentiellement, on peut voir qu'il y a des marques qui convertissent mieux après 1 heure versus 30 minutes. Ou pour la relance du jour après, peut-être le faire plus un jour, plus 2 jours. Ça va aussi dépendre de ton panier moyen, ça dépend de pas mal de choses, mais c'est toujours intéressant de faire de l'A/B test pour pouvoir voir en fait ce qui fonctionne concrètement. Donc ça, c'est une manière assez smart de pouvoir pousser la performance.
D'accord, ok. Et dans les mails, qu'est-ce que tu dis? Enfin, dans le premier, c'est toujours un peu oups, vous nous avez, enfin, vous nous avez oublié un truc comme ça. Et après, on remonte les produits, on remonte peut-être des témoignages, des éléments de réassurance. Mais dans les mails suivants, tu dis quoi? C'est toujours un peu moins évident. Il y en a qui disent un peu la même chose, d'autres qui changent d'argument. Qu'est-ce que tu conseilles là-dessus,
Ouais.
en quelques mots?
Alors, premièrement, moi, ce que je conseille, c'est toujours s'assurer que les produits remontent très rapidement dans le mail. Ça m'est arrivé de voir des paniers abandonnés où il faut scroller, scroller, scroller avant de voir un call to action. Ça, c'est vraiment dommage. Donc, nous, ce qu'on conseille absolument, c'est avoir le produit qui remonte très, très haut dans le mail avec un call to action très clair. Ce qu'on conseille aussi, c'est que sur les premiers mails, il faut pas mettre 40 choses. Donc, premier mail, pour nous, c'est clairement, on met que le produit. Vous avez oublié votre panier. On met le produit en avant, call to action pour finaliser la commande. Donc vraiment un mail qui est très simple. Les mails suivants, on peut tout à fait varier un petit peu la communication. Donc par exemple, sur un exemple, nous souvent ce qu'on fait en mail 2, c'est qu'on va proposer on va mettre en avant les contacts de la marque en disant si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui vous bloque aujourd'hui pour passer à l'achat, n'hésitez pas à nous contacter. Donc ça, c'est par exemple, c'est une manière de pouvoir adresser le sujet aussi frontalement en disant bah, peut-être que vous avez un problème, on est là pour vous aider, montrer qu'il y a une marque et des gens qui sont derrière. Ça c'est toujours utile. Ensuite, sur les mails suivants, ce qu'on va pousser, c'est plus de la réassurance, donc des témoignages clients. Pourquoi pas mettre des petits encadrés spécifiques si jamais tu fais des flows spécifiques à un produit, pourquoi pas avoir de la réassurance sur le produit spécifiquement, avec mise en valeur un petit peu du produit. Voilà, essayer de répondre un petit peu aux interrogations que les gens pourraient avoir. Voilà, donc après, c'est vraiment du cas par cas, ça va dépendre des marques, ça va dépendre de la problématique, mais entre le fait de montrer que toi, tu es présent, que tu es là pour les aider et faire de la réassurance déjà, il y a déjà pas mal de choses à faire. Sur certaines marques, on a aussi des stratégies qu'on peut pousser, parce qu'on fait du code promo souvent pour un flow de bienvenue, par exemple. On pousse à un 10%, c'est assez standard sur le e-commerce. Ce qu'on peut faire aussi en panier abandonné, c'est pour les non-clients spécifiquement. Donc là, on fait une branche non-client. pousser un petit code de bienvenue aussi à partir du troisième mail en disant bah tiens, on a vu que vous n'avez jamais encore passé commande chez nous, voilà, on a une offre de bienvenue et on pousse le code promo aussi sur le panier abandonné.
J'avoue que le code promo sur le panier abandonné sur le premier mail, franchement, je trouve que ça ne le fait pas. Je trouve vraiment, en tant que client, tu te dis, ouais, j'abandonne mon panier, 30 minutes plus tard, on me donne un code promo. Après, ce n'était pas encore du positionnement de la marque, mais voilà, je pense que même si c'est une marque avec un positionnement moins premium et tu as des produits qui sont moins chers, abaisser encore ton prix, je trouve ça un peu dommage, quoi. Donc, surtout la première relance. C'est la troisième, quatrième, je peux comprendre si tu veux vraiment faire la vente, mais première relance, c'est un peu bizarre.
Nous, on le fait, quand on le fait, c'est vraiment que pour les non-clients et on le fait à partir de la troisième relance minimum.
Je trouve vraiment que c'est mieux parce qu'en fait, il y a vraiment des gens pour qui l'argument, le problème, c'est le prix. Même ça, il coûte 50 euros, c'est le prix et c'est normal, tout le monde n'a pas le même pouvoir d'achat, donc ça peut se comprendre.
La livraison, c'est un sujet qui arrive en fin de cycle, en fin d'expérience. Qui peut surprendre et qui peut freiner la personne. L'autre chose aussi, c'est que nous, on voit les choses de manière assez faire sur le sujet, où en fait, on propose un code promo de 10% pour le flux de bienvenue. Du coup, si toi, t'es pas encore client et que t'as pas utilisé le code promo, il y a aussi une forme d'honnêteté de dire, sur le pop-up, on propose 10%. Toi, d'une certaine manière ou d'une autre, tu l'as pas vu, tu l'as peut-être raté. Sache qu'en fait, un petit rappel de ça. Donc, au moins, tout le monde est sur le même, au même niveau et les gens ne se sentent pas trichés aussi par rapport à ces stratégies de code promo qui peut parfois frustrer certaines personnes, quoi.
Totalement d'accord. Non, il y en a qui aiment pas ça et donc je suis totalement d'accord avec toi. Ok, c'est hyper clair. Merci pour la petite masterclass sur les e-commerce qui font moins d'un million. Et du coup, si on passe sur ceux qui font justement plus d'un million, je ne vais peut-être pas poser exactement les mêmes questions, mais si on reprend peut-être les flows automatisés, ce qui sont différents, ce qui sont plus complexes, qu'il y en a d'autres encore que tu n'as pas cité. Je te laisse enchaîner là-dessus.
Alors, sur les flows automatisés, par rapport aux marques qui font plus d'un million d'euros, on va. Alors, les flows que je t'ai cités vont rester, clairement. Celui que j'ajouterai de manière assez claire, c'est un flow de ce qu'on appelle un sunset flow, un flow de nettoyage de liste. Donc, c'est un flow qui va aller capter les abonnés qui, eux, ne sont pas actifs depuis un certain temps. Et qui vont faire des relances un peu de la dernière chance. Souvent, c'est des relances, c'est même pas des relances en mode on va essayer de vous convertir, c'est plutôt en mode ok, là, sachez qu'on va vous désabonner dans quelques temps. Si vous voulez rester en contact, n'hésitez pas à nous le faire savoir, etc. Donc, c'est plutôt des flows de la dernière chance, on va dire, pour garder les gens dans la base. Donc, ça, quand tu commences à être à un certain niveau de chiffre d'affaires, c'est important de faire le nettoyage de la base de manière régulière. Et donc, ça doit être intégré dans la stratégie de l'automatisation. Donc ça, c'est un flow à ajouter. Ce qu'on peut ajouter en plus aussi, c'est plutôt des flows qui vont aller plus loin dans la relation, dans la construction de la relation. Donc par exemple, je te parle de flow de programme de fidélité. Imaginons, t'as un client qui est repassé commande plusieurs fois sur ton site. Comment est-ce que tu peux rewarder cette personne-là? Comment est-ce que tu peux la garder dans l'écosystème de la marque? Et donc là, tu peux mettre en place des programmes de fidélisation via Klaviyo directement ou via des applications tierces qui sont spécialisées là-dessus et qui vont s'intégrer dans Klaviyo pour pouvoir contacter ces personnes-là au bon moment et les rewarder sur les achats qui ont été faits.
Oui, c'est important parce que, enfin, je te coupe rapidement, mais c'est que sur les programmes de fidélité, parfois on ne sait même pas qu'on a des points. Et donc c'est bien parfois de rappeler par email via Klaviyo ou directement le système du programme, mais qu'il reste des points, avec ces points on peut les convertir, que là on a déjà des buckets 10 euros, puis 20 euros, puis 30 euros. Et ça, je pense, c'est des mails qui, s'ils peuvent être paramétrés, il faut le faire. Parce qu'on a tendance à l'oublier.
Exactement. Et donc là, quand tu fais plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires, ça devient vraiment très pertinent de le faire. Et alors après, toutes les marques ne vont pas forcément faire des programmes spécifiquement, mais tu peux avoir des petits rewards pour tes clients récurrents, c'est toujours intéressant. Donc ça, c'est des choses que tu peux ajouter en plus. Le parrainage, on n'en a pas parlé aussi, mais c'est un sujet qui peut être même intégré dès le début. Le parrainage, selon ton produit, ça peut aussi être pertinent pour les plus petites marques. Mais en tout cas, à partir d'un million d'euros, je pense que ça doit être aussi inclus dans la stratégie. Et après, c'est une question d'aller juste plus loin, en fait, chaque flow, de mettre plus de précision dans chaque flow. Donc, je te donne un exemple. Tu as un panier abandonné. Enfin, le panier abandonné, on en a déjà parlé par rapport au code promo. Mais sur les autres flows, et même le flow de panier abandonné, quand tu écris un mail à un client ou à un non-client, Effectivement, la manière dont tu vas écrire le mail doit être un peu plus personnalisée. Donc nous, ce qu'on fait souvent dans les marques qui ont plus de volume, c'est de splitter en fait tous nos flows clients versus non clients pour pouvoir à la fois adapter le message qu'on va aller pousser. Donc plutôt que de dire ah on a vu que vous avez oublié votre produit dans le panier, ce sera ah bonjour, merci d'être revenu sur notre site. On a vu que vous avez oublié machin. Et cette petite note personnalisée où on accepte le fait, enfin, on présente à la personne le fait que voilà, on a vu que vous étiez déjà là et que vous êtes de retour. Ça apporte de la valeur et ça peut renforcer le sentiment de la personne de passer commande. Donc, déjà, sur les flows comme ça, on va chercher plus de précision via de la segmentation en fait dans les flows. On parlait tout à l'heure de zéro party data. Je pense que ce qui est pas mal aussi, c'est d'aller plus loin dans la recherche de data qu'on va pouvoir aller prendre des utilisateurs. Donc, tout à l'heure, on a parlé du fait de mettre un petit questionnaire après la première commande. Mais là, par exemple, on peut aller plus loin et pourquoi pas mettre un petit questionnaire à la fin du flow de panier abandonné, parce que les gens n'ont pas passé commande. In fine, ils ont abandonné, ils sont pas allés au bout de l'achat. Ce serait toujours intéressant de comprendre pourquoi ils ne l'ont pas fait. Et donc, pourquoi pas mettre plus d'intention dans la recherche de data sur le parcours client. Ça paraît pertinent aussi. Donc, en fait, on peut aller plus loin dans les choses qui ont été faites déjà, aller plus
D'accord.
loin pour chercher plus de précision à tous ces niveaux-là, quoi. Voilà. L'autre chose que j'ajouterais, c'est aussi, on parle beaucoup de mail, mais les autres moyens de communication liés au mail, on peut parler de SMS. Maintenant, on commence à parler de WhatsApp aussi de plus en plus. Ça, c'est des stratégies qui, dès lors que tu passes le million d'euros de chiffre d'affaires et que tu commences à avoir plus de volume, ça peut être intéressant de commencer à intégrer ces nouveaux outils. Enfin, ces outils, c'est pas si nouveau que ça, hein, le SMS, mais en tout cas en marketing, c'est plus récent. De commencer à l'intégrer dans le mix de l'emailing aussi, pour que plutôt que tu mettes tous tes œufs dans le panier email, panier abandonné, on va les récupérer avec des emails, bah pourquoi pas mettre un petit SMS aussi dans le mix pour varier un petit peu la communication et t'assurer que tu es sûr que la personne au moins aura vu le message, quoi.
Et ça, Klaviyo le propose, là, sur le coup, je dis peut-être une bêtise, mais est-ce que Klaviyo te propose de faire ça?
Non, c'est pas une bêtise. Klaviyo le propose sur le marché américain aujourd'hui.
Ah, ok.
Le marché UK et ils vont lancer le marché français en 2024. Donc on
Ok.
n'a pas encore de date exacte, etc. C'est sur la roadmap pour eux depuis très longtemps.
Ok.
Mais je crois fin Q1 2024, début Q2 2024, on aura le CMS. Aujourd'hui, on passe donc pas par Klaviyo avec les marques françaises. On passe par une autre application qui s'appelle SMS Bump, qui est connectée avec Shopify et qui permet de pouvoir faire ses stratégies tout aussi bien, quoi.
Ok, super clair. Ce serait quand même dingue si les deux étaient connectés. Ok, c'est très clair. Et niveau segmentation, surtout les fameux newsletters, c'est des choses que tu envoies plus de manière ponctuelle. Est-ce que tu fais des segmentations plus spécifiques quand tu fais des plus gros chiffres d'affaires? Peut-être que tu peux avoir une segmentation selon le genre ou selon le type de produit acheté, selon le nombre de produits achetés, selon le fait qu'ils ouvrent beaucoup les mails ou qu'ils les ouvrent pas beaucoup. Comment est-ce que tu fais ça généralement pour tes clients qui font plus d'un million de chiffres d'affaires par an?
Ouais, bah en fait c'est tout ce que tu viens de dire, c'est ça. C'est on va chercher en fait différents types de profils par rapport à l'historique d'achat, par rapport à l'engagement de la personne. Ça c'est les deux créneaux, on va dire, qui vont être ciblés particulièrement. Donc est-ce que la personne a ouvert un mail dans les 2 derniers mois? Est-ce que la personne a passé une commande ou pas? Est-ce que la personne a passé commande mais n'est pas revenue depuis un certain temps? Donc, là on parle de clients potentiellement churn et donc, ça peut être intéressant d'aller les rechercher aussi. Et donc en fait, quand tu es à plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires, nous ce qu'on va faire généralement, c'est qu'on va regarder un calendrier éditorial pour les campagnes du mois suivant, en se disant quelle cible est-ce qu'on peut aller chercher ce mois-ci. Donc, évidemment, 70 à 80% des emails vont aller chercher des cibles assez larges pour pouvoir quand même avoir de la valeur et cibler ta base de manière générale. Mais une partie aussi de ta communication va être plutôt dédiée à des ciblages plutôt spécifiques. Donc, par exemple, comme tu l'as dit, les désengagés, par exemple, comment est-ce qu'on peut faire pour les réengager? Les clients VIP, pourquoi pas, s'il y a une communication spécifique pour eux. Ça peut
Oui.
être aussi basé sur la géolocalisation. Si jamais tu as un événement, imaginons, tu as un événement sur Lyon, ben on va pouvoir chercher tous les gens qui sont autour de Lyon et qui vont pouvoir potentiellement venir à l'événement. Donc, voilà, on peut commencer à être beaucoup plus précis dans le ciblage des communications.
Parce qu'en effet, si tu as une base avec 5000 abonnés, bon, tu auras peut-être 15 abonnés dans le segment ou 150, alors que là, tu en auras plusieurs centaines, voire peut-être un millier. Et là, ça devient vraiment intéressant parce que dans un segment très ciblé d'un millier de personnes, il ne faut pas le négliger, c'est beaucoup. Donc, écoute, c'est clair pour moi et je vais te demander une autre question pour terminer là-dessus. Donc, on a parlé de certains enjeux en email marketing quand tu es une marque qui fait plus d'un million. Tu as parlé de cleaner, de nettoyer la base mail. On a parlé de segmentation. Est-ce que tu vois d'autres enjeux importants pour ces marques-là en email marketing? Là, ce qui me vient en tête, c'est les tests AB, bien évidemment, mais si tu as d'autres trucs que tu as en tête, ça serait cool.
Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. En fait, l'AB test, je pense que c'est l'autre point qu'il faut amplifier une fois que tu commences à faire plus de volume, c'est-à-dire, et le processiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux faire peut-être un AB test ou deux de temps en temps. Quand tu es une marque qui fait beaucoup de volume, il faut que l'AB test soit vraiment partie prenante de tes process. Donc, quand tu fais des campagnes, bah, il faut tester des hypothèses. Donc, il faut toujours, évidemment, il faut que l'AB test faut qu'il y ait une résultante sur le test. C'est pas juste l'idée, c'est juste de faire de l'AB test pour faire de l'AB test. Il faut traquer ce que tu fais et pouvoir faire des conclusions. Donc, par exemple, ça veut dire, tiens, ce mois-ci, on va AB tester comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter les taux de clics sur les emails. Et donc, on va changer le format de nos emails un petit peu pour pouvoir potentiellement aller chercher plus de clics. Donc ça, c'est le genre d'AB test qu'on pourrait faire.
Oui, il ne faut pas en faire 10 en même temps.
Il ne faut pas en faire 10 en même temps. Effectivement, sinon tu perdrais complètement la valeur de test. Donc en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, OK, ce mois-ci, on va tester ça, ça et ça. Et à partir de là, on met en place des AB tests. Et ça, sur des marques qui ont plus de volume, c'est quelque chose qu'il faut faire de manière beaucoup plus régulière que quand tu as 5, 10 000 abonnés, où clairement, c'est pas forcément l'enjeu numéro 1, quoi.
Ok, d'accord, c'est compris. Un autre AB test qui est fréquent, c'est tester l'objet de l'email. Et comme tu dis, tu peux le faire dans les flows, tu peux le faire dans les newsletters, ou tu peux le faire dans d'autres types d'email.
Ouais, dans les flows de manière générale, quand tu fais ce genre de volume de CA, de passage, entre guillemets, d'abonnés, c'est important d'avoir de l'AB test sur tous les flows principaux. Donc, tous tes flows de panier abandonné, d'email de bienvenue, que tu testes, en fait, que tu ailles chercher de la performance via des tests. Alors après, à un moment donné, tu auras fait suffisamment de tests pour pouvoir te dire, OK, on en reste là pour le moment. Mais après, tu peux aussi faire de l'AB test qui est contextuel, c'est-à-dire tu peux te dire, tiens, là, on est en plein été, peut-être que sur notre thématique, ça peut être intéressant de tester différentes choses en termes d'engagement. Et donc, tu peux lancer des AB tests aussi par rapport à la saisonnalité. Donc voilà, il faut que ça fasse partie de la réflexion globale de la stratégie pour pouvoir aller chercher encore plus de performance, sachant que à ces niveaux-là, souvent même 1% de performance de plus sur une ouverture ou quelques pourcentages de plus sur l'ouverture, ça peut amener à des résultats qui sont conséquents à la fin, quoi. Donc c'est vraiment pertinent.
C'est bien que tu le rappelles, ouais, c'est sûr. Ok, parce que comme tu dis, gagner 2% d'ouverture sur une base email de 30 000 par rapport à une base de 3 000, ça fait toute la différence en termes de chiffre d'affaires. D'où le fait qu'il faut généralement se faire accompagner ou avoir un spécialiste en interne qui le fait et qui passe son temps à réfléchir à ça. Ok, ben pour moi, c'est bon pour ce sujet-là, à moins que tu voulais rajouter d'autres trucs sur, encore une fois, la stratégie ou les essentiels pour une marque qui fait plus d'un million, avant que je passe aux questions suivantes.
Ouais. Je pense que, je sais pas si en vrai tu veux encore aller plus loin par rapport au million, parce qu'évidemment, un million, c'est un certain palier. Après, si jamais tu as une marque qui veut aller taper les 10, 20, 30 millions, évidemment, là, tu rentres dans des sujets qui sont encore plus poussés. Et en fait, tout ce qu'on vient de parler là, ça se complexifie encore plus. Et là, c'est là où l'intégration maintenant des outils d'intelligence artificielle commence à être intéressant. Donc, il y a plusieurs formats aujourd'hui qui commencent à se développer là-dessus. Mais notamment, par exemple, Klaviyo propose un format donc basé sur l'intelligence artificielle qui va prédire en fait quand est-ce qu'un utilisateur va pouvoir être amené à repasser commande prochainement, parce que il y a tellement de data qui est générée sur l'outil qu'il va analyser, et avec l'algorithme qu'ils ont mis en place, ils vont dire, bah tiens, tel utilisateur il serait à peu près prêt à repasser commande à tel moment, et donc les emails vont partir à ce moment-là.
Mais oui.
Et
oui.
Voilà. Et donc ça, c'est des sujets qui commencent à devenir de plus en plus importants sur des marques qui sont encore plus avancées, on va dire.
D'accord. Donc aller plus loin dans l'intelligence artificielle et tout ce qui est automatisation et scénarios qui peuvent être plus poussés.
Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Si vous avez aimé cet épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parlez-en autour de vous, partagez-le sur les médias sociaux en me taguant, ou encore mieux, laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça vous prend à peine 2 minutes et nous, ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast de manière 100% organique. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.